Au sujet des tables que Moshe Rabbeinu a brisées, les premières tables qu'il a reçues de Dieu sur le mont Sinaï, le Malbim a expliqué la raison pour laquelle Moshe a brisé les tables. Il a expliqué que quand Moshe est descendu en tenant les tables de la loi, il les portait d'une seule main. Seulement quand il s'approchait du peuple et que le peuple était en train de commettre le péché du veau d'or, alors les lettres qui étaient gravées sur les tables, ces lettres-là qui avaient été écrites par le doigt de Dieu, puisque ces premières tables sont l'œuvre de Dieu, ces lettres-là, donc, se sont envolées. Et comme elles se sont envolées, les tables sont devenues lourdes. Pour quelle raison? Parce que, justement, ce sont ces lettres-là, écrites du doigt de Dieu, qui portaient tout le poids des tables. On peut voir ça aussi chez l'homme. Dans le Tanya, il est écrit que celui qui a des pensées qui proviennent de l'autre côté de la sainteté, c'est-à-dire vraiment de son mauvais penchant, alors celui-là, il a un corps qui s'alourdit, il est lourd. À l'opposé, celui qui est animé par des pensées qui sont divines, des pensées qui sont saintes, alors ses pensées vont élever, elles vont alléger son corps. Il va être léger, il va être alerte. Et de la même façon, on voit donc que quand Moshe s'est approché du peuple qui était en train de commettre le péché du veau d'or, les lettres se sont envolées, ont quitté les tables, parce que, justement, Dieu, il ne peut résider que dans un endroit qui lui est totalement soumis. Et comme c'était l'endroit du péché, de l'impureté, à ce moment-là, la sainteté des tables, qui s'incarne dans les lettres elles-mêmes qui sont gravées dans la pierre, se sont envolées. Ça, c'est une raison que nous donne ce commentateur, le Malbim. Mais dans le Dvar Malchut sur notre paracha, le Rabbi va nous donner l'explication profonde, le sens profond de la brisure des premières tables. Pour comprendre de manière profonde l'explication du Rabbi, il faut aller chercher dans les notes du Dvar Malchut et se rapporter aux références que le Rabbi apporte. Et on voit par exemple, le Rabbi nous raconte ce passage de la Torah dans lequel il est expliqué que lors de la création du monde, la lettre Aleph s'est présentée devant Dieu et lui a demandé pour quelle raison Dieu commence la Torah par le mot Bereshit, par la lettre Bet, et non pas par la lettre Aleph qui elle-même représente la première lettre de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors Dieu lui a répondu que depuis le moment de la création du monde, c'est-à-dire depuis Bereshit, il faut attendre 26 générations pour arriver au don de la Torah, Matan Torah, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Le but même de la création, la raison pour laquelle le monde a été créé, comme l'écrit Rashi, c'est pour la Torah, pour le peuple d'Israël. Donc la Torah, elle représente le but même de la création. Et la Torah, les 10 commandements que vont prononcer l'Éternel sur le mont Sinaï, ces 10 commandements, ils commencent justement par la lettre Aleph, par le mot Anochi. Puisqu'on dit même que toute la Torah, elle est incluse dans le mot Anochi, et dans la lettre Aleph, la première lettre du mot Anochi. Donc Dieu y répond à la lettre Aleph, tu vois, toi-même, la première lettre de l'alphabet, c'est avec toi que je commence les 10 commandements, et donc c'est le but même de la création. Alors la question pour toi elle demeure, pour quelle raison alors la Torah ne commence pas par la lettre Aleph, mais par la lettre Bet? Et la réponse du Rabbi est que pour recevoir ce dévoilement de l'essence divine, pour recevoir le dévoilement qui a eu lieu à Matan Torah et qui est allusionné par la lettre Aleph, qui est représentée par cette lettre, il faut un travail de purification. Il faut préparer le monde à ce dévoilement. Il faut préparer l'homme et le monde à ce dévoilement. C'est pour ça qu'il faut attendre 26 générations pour purifier le monde, pour le travailler, pour faire un travail vraiment du bas vers le haut, pour faire de ce monde et de nous-mêmes un réceptacle capable de recevoir le dévoilement de l'essence divine qui est allusionné par la lettre Aleph. Pour exprimer cette idée-là, le Rabbi prend l'exemple d'un enfant et il nous dit que pour éduquer un enfant, on doit lui donner des enseignements de manière progressive. On ne peut pas lui enseigner immédiatement, dès le début de son éducation, des enseignements qui sont très élevés. On doit y aller progressivement. Et de la même façon, le rabbi nous explique que le monde, à sa création, au moment de Bereshit, il ressemble à cet enfant. Il ressemble à cet enfant par le fait que pour arriver à lui donner une éducation, pour l'amener au moment de sa bar mitzvah, au moment où il va avoir l'obligation et le devoir d'accomplir les commandements divins, donc ces 10 commandements, au moment où il doit vraiment assumer sa mission en tant que juif dans le monde, on doit le préparer à ce dévoilement, et ce travail-là, il est allusionné par la lettre bet du mot Bereshit, puisque le monde, il a été créé au moyen de cette lettre, la première lettre du mot Bereshit, et donc la lettre bet, elle fait allusion à ce travail de préparation pour recevoir le dévoilement de la lettre Aleph, le dévoilement de l'essence divine. Donc la lettre bet en elle-même, c'est pas le but même de la création. Le but de la création, c'est le dévoilement de la Torah et de l'essence divine qui est allusionné par la lettre Aleph. Et c'est là que vient la réponse du rabbi, que vient nous expliquer le rabbi la raison profonde pour laquelle les premières tables ont été brisées, tout simplement parce qu'elles sont l'œuvre de Dieu. Et du fait que Dieu a écrit de son doigt, a gravé les paroles de la Torah sur les tables de pierre, c'est pas cette Torah-là qui est un acte divin, elle est totalement au-dessus du monde et au-dessus de nous-mêmes. Elle est au-delà de notre perception, de notre compréhension, et nous n'avons pas les moyens de la recevoir et de l'intégrer. Et c'est la raison pour laquelle ces tables-là étaient vouées à la destruction. Par contre, à l'opposé, on voit que les secondes tables qui ont été l'œuvre de Moshe, elles vont être reçues par le peuple juif de manière profonde. Et c'est là l'enseignement qui est important, c'est de se rendre compte toujours, ce point-là qui revient sans cesse, l'importance de Moshe, l'importance du Moshe qui existe dans chaque génération, puisqu'il est celui qui sert d'intermédiaire entre le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire que les premières tables elles représentent l'essence divine qui est hors de notre portée, et les secondes tables elles représentent l'essence divine que Moshe va mettre à notre portée. Préparez-vous à la venue du Mashiach. De quelle manière on se prépare au dévoilement de l'essence divine? C'est précisément par notre attachement au Rabbi. C'est là le point qui est important ici, puisque le Rabbi il déclare dans ce Dvar Malchut que pour provoquer, pour avoir la force de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine, pour provoquer vraiment ce dévoilement-là, c'est uniquement par notre lien avec le Moshe de notre génération que l'on peut y parvenir. Bien que ce ne soit pas écrit dans le Dvar Malchut, on peut tout de même se rapporter à cet autre enseignement de la Torah, dans lequel il est dit que lorsque Dieu il a commencé à parler, quand la voix de Dieu elle est sortie et qu'elle a été entendue par le peuple d'Israël, les deux premiers commandements, le peuple d'Israël a entendu les deux premiers commandements de la bouche de l'Éternel, alors leur âme s'est envolée. Ils n'ont pas pu supporter ce dévoilement. Ils n'ont pas pu supporter le dévoilement de l'essence divine. Et Dieu a été obligé de les ressusciter, et le peuple juif a demandé alors à Moshe de parler avec l'Éternel et que Moshe leur répète sa volonté, que Moshe leur répète ses commandements. Mais de la bouche de l'Éternel, ils ne pouvaient pas entendre ses commandements. Ça rejoint cette idée des premières et des secondes tables. Les premières tables sont un acte divin qui est hors de notre portée, et on ne peut recevoir ce dévoilement que par la révélation des secondes tables. De la même façon, on ne peut pas supporter d'entendre la voix, les commandements quand ils sont dits par l'Éternel lui-même, et on a besoin de Moshe comme intermédiaire pour nous les transmettre à nouveau. Donc ça correspond aux secondes tables. On voit l'importance de ce tzaddik Yisod Olam, ce tzaddik sur lequel repose le monde, Moshe Rabbeinu. Et comme il est écrit dans le livre du Zohar, dans chaque génération, il y a Itpashtuta de Moshe, il y a l'extension de Moshe, et le Rabbi lui-même est le Moshe de notre génération. D'où l'importance de s'attacher à lui pour pouvoir recevoir ce dévoilement de l'essence, qu'il s'agisse de l'essence de notre âme ou qu'il s'agisse de l'essence de la Torah du Mashiach. Pour se rappeler un petit peu de l'importance de ce tzaddik Yisod Olam, on peut se rappeler de l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait demandé un ange qui s'apprêtait de détruire le monde, il lui avait demandé de retourner vers Dieu et de lui implorer sa miséricorde, de lui demander vraiment qu'il ait l'esprit miséricordieux et qu'il ne détruise pas le monde. Et de quelle manière il voulait inciter Dieu à sauver le monde, c'est par le mérite des tzadikim. Alors on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va faire la série, une série qui parle d'abord de 30 tzadikim, puis de 20 tzadikim, puis de 2 tzadikim, puis d'un seul tzadik, ce tzadik qui sort de l'âme. Si tu ne veux pas sauver le monde par le mérite de ces 30 tzadikim, alors sauve-le par le mérite des 20 tzadikim qui sont supérieurs à ces 30 tzadikim. Et si tu veux pas sauver le monde par le mérite de ces 20 tzadikim, alors sauve-le par le mérite de ces 2 tzadikim qui dépassent les 20 derniers et les 30 premiers. Et si ces deux-là n'ont pas le mérite, alors sauve-les par le mérite de ce tzadik qui sort de l'âme. Donc on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il décrit plusieurs sortes de tzadikim. En fait, il existe plusieurs niveaux. Même quand il s'agit de tzadik gamour, d'un tzadik parfait, il y a plusieurs niveaux. Mais celui qui surpasse tous les tzadikim, c'est le tzadik qui sort de l'âme. L'Admor HaZaken les mentionne dans le livre du Tanya. Au tout début du livre du Tanya, il mentionne ce tzadik qui sort de l'âme. Quelle est la différence entre un tzadik parfait et le tzadik qui sort de l'âme? Alors en fait, il faut s'attacher à l'expression elle-même. Quand on parle de tzadik isodam, quand on parle de ce tzadik isodolam, en fait, le mot olam, il désigne le monde. Et en fait, c'est la différence entre un tzadik parfait et le tzadik isodolam, c'est que celui qui est désigné comme parfait, malgré tout, il s'attache essentiellement à se parfaire lui-même. Alors que le tzadik isodolam, c'est celui qui va s'attacher à réparer le monde, à regarder le monde, à voir le manque qui existe dans ce monde, et à essayer de combler le vide, à essayer de réparer le monde. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle tzadik olam, isod olam, le tzadik sur lequel repose le monde. Pour comprendre cette histoire, on pourrait se rappeler de cette histoire de l'Admor HaZaken et de son fils, l'Admor Emtsaï, qui étaient tous les deux dans la maison en train d'étudier la Torah, et à un moment, un bébé a pleuré, il s'agissait de l'enfant de l'Admor Emtsaï, et l'Admor Emtsaï était tellement absorbé par son étude qu'il n'a pas fait attention aux pleurs de ce bébé. Et l'Admor HaZaken lui-même, qui a étudié aussi la Torah, a malgré tout entendu les pleurs de cet enfant, il est allé voir son fils et lui a demandé d'aller s'occuper de cet enfant. Alors, pour quelle raison l'Admor HaZaken n'a pas perçu ses pleurs? C'est parce qu'en fait, il n'avait pas encore atteint ce niveau-là, le niveau de son père, puisqu'il n'y a qu'un seul tzadik isodolam dans chaque génération, et qu'à ce moment-là, c'était l'Admor HaZaken lui-même. L'Admor HaZaken qui représente le tzadik isodolam, lui-même, il a les yeux ouverts vers le monde, il s'attache à réparer le monde. Son fils, qui n'avait pas encore atteint ce niveau-là, est resté absorbé par la Torah qu'il étudiait, et donc n'a pas perçu les pleurs de son enfant. Donc on voit ici la différence qui existe entre le tzadik isodolam et même un tzadik parfait. Donc ici même, dans notre paracha, on voit vraiment de manière claire que le rabbi nous enseigne que les secondes tables que Moshe a détruites, il les a détruites à la suite du péché du veau d'or. Là-dessus, le rabbi nous apprend qu'un juif, de par lui-même, il est incapable de commettre un péché. Et donc la seule raison pour laquelle il a commis ce péché, le péché du veau d'or, c'était parce que Dieu l'a incité en ce sens, dans le but de lui faire connaître une descente spirituelle, mais comme toute descente a pour but une élévation à un niveau supérieur, le but du péché du veau d'or, c'était d'amener le peuple d'Israël à un niveau supérieur, au niveau supérieur de la Teshuvah. Et c'est la raison pour laquelle ces deux tables, ces tables que Moshe il a taillées lui-même, qui sont l'œuvre de l'homme, et qui donc font référence à ce travail de Teshuvah, ne peuvent pas être détruites, et qu'elles demeureront éternellement. Elles représentent la perfection, en fait, de notre Teshuvah qui s'accorde avec le projet divin de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu, le dévoilement de l'essence divine, le dévoilement de la lettre Aleph. La teshuva elle-même, tashuv, revenir vers Dieu, ce retour vers Dieu, cette teshuva, c'est pas seulement le fait de regretter nos péchés, mais c'est le fait de dévoiler nos forces les plus profondes, dévoiler notre amour pour Dieu qui est illimité, notre amour infini pour Dieu, et ça ce n'est que possible que par notre attachement à Moshe Rabbeinu, au Rabbi de Lubavitch. C'est parce qu'on se trouve dans les Arba Amot, dans les quatre coudées du Rabbi, que le Rabbi va dévoiler l'essence de notre âme. Il va dévoiler cette volonté qui est au-delà de l'intellect et qui ne désire que Dieu. Tzama lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Quand l'âme a soif de toi, ça désigne ce niveau de l'âme qui est enraciné dans l'essence divine, ce désir du dévoilement de l'essence divine, comme l'Admor HaZaken quand il a dit « Je ne veux que toi, je ne veux que ton essence ». Donc la paracha Tissa, ce nom Tissa, il représente l'élévation, le fait de s'élever chaque fois à un niveau plus profond, à un niveau supérieur. Là, quand on parle dans la Chassidut ou dans la Kabbale du processus du Tzimtzum, la dissimulation de la lumière divine, on doit comprendre que le monde il ne reçoit qu'un reflet du divin. En fait, de la même façon, on voit que l'âme elle-même, ce n'est qu'un reflet de l'essence de l'âme. Donc, le Tzimtzum, ça représente cette dissimulation. Pourquoi ? Parce que le monde n'est pas capable de recevoir le dévoilement de l'essence. Mais surtout, ce qu'on doit comprendre dans l'idée du Tzimtzum, c'est le fait qu'on ne ressent pas la force créatrice. On ne ressent pas que Dieu, il nous crée et il nous maintient en vie à chaque instant. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas le lien d'un père avec son fils. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas que Dieu est notre père à chaque instant de notre vie. Dieu nous a donné par le Tzimtzum l'impression qu'on vit indépendamment de lui. Donc la teshuva, vraiment, c'est de revenir à ce niveau, revenir à cette perception au dévoilement de la lettre Aleph. C'est pour cela que quand on dit que quand on se trouve dans les quatre coudées du Rabbi, qu'il dévoile l'essence de notre âme, il nous prépare à ce dévoilement. Le Tzimtzum, c'est quand le Shem Havayé, le nom d'Havayé, il est masqué par le nom d'Elohim, mais dans les temps futurs, il est dit que le soleil sortira de son étui. Le soleil, il fait allusion au nom d'Havayé, il sortira de l'étui que représente le nom Elohim. Ça veut dire que l'homme, il va retrouver sa perception du divin qu'il a perdu. Puisqu'il a perdu cette perception au moment du péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il a désobéi à Dieu, alors sa perception du divin a disparu et il s'est mis à percevoir le monde matériel. Comme aujourd'hui, quand on ne perçoit que ce monde matériel. Et notre travail, justement, c'est de purifier la matière, de purifier notre corps, pour le préparer à ce qu'il devienne un réceptacle pour recevoir ce dévoilement de la perception du divin. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que cela se réalise avec le dévoilement du Mashiach, ce Shabbat même, et même avant l'entrée du Shabbat, Shabbat Shalom, au Mevorach.